Bonjour. Aujourd'hui, nous vous offrons une section de texte tirée du média suivant, Fugue. Au programme, les républicains prennent le contrôle des salles de classe aux États-Unis. Et le génial Ronnie Burkett de retour à Montréal, cette fois avec Little Willie. Bonne écoute.
Cinq filles perdues à tout jamais. Commentaire de lecture d'Émilie Morin paru le 14 février 2023 dans le magazine littéraire Nuit Blanche. Un roman de Kim Fu publié chez Héliotrope en 2022. À l'été 1994, cinq enfants se rendent au camp Forevermore pour y devenir des filles pirates, des filles capitaines de vaisseaux spatiaux, des princesses guerrières. Loin de se douter qu'une excursion de kayak fera plutôt d'elles des filles perdues, des filles hantées. Du moins, c'est ce que veut nous faire croire Kim Fu, sans vraiment réussir. Avec cinq filles perdues à tout jamais, Fu cherche à mettre en scène un questionnement. Si Oban, Nita, Andy, Dina et Isabelle ont-elles été changées par les événements qui se sont déroulés au camp, où l'excursion n'a-t-elle que montré des traits déjà présents chez elle? Le dilemme est intéressant et aurait sans doute pu mener à une réflexion philosophique enrichissante, mais malheureusement, il meurt dans l'œuf. En effet, à ces questions fondamentales à son intrigue, le roman offre des réponses sans équivoque, qui mettent en doute la pertinence de l'interrogation initiale. La stratégie de Fu, qui est de jouer avec la temporalité du récit, se retourne contre elle. En nous dévoilant le passé et le futur de ces héroïnes, un passé où les fondations de leur personnalité semblent déjà bien ancrées et un futur où le trauma du camp n'est que brièvement mentionné, Fu sacrifie l'attention qui aurait fait de Cinq filles un ouvrage mémorable. Au-delà de ce faux dilemme, Cinq filles perdues à tout jamais reste une histoire qui sait tenir son lecteur en haleine. Le drame du camp apparaît peu à peu, entrecoupé de ces épisodes de vie adulte qui ne manquent pas de mystère. Kim Fu nous propose une écriture décomplexée, et c'est ce qui lui donne du pouvoir. On ne sait jamais à quoi s'attendre, parce que l'on sent que l'autrice oserait aller n'importe où avec son récit. C'est efficace puisque, bien que le rythme soit assez lent, le roman se lit rapidement, pressé que nous sommes d'apprendre le sort de Sioban, Nita, Andy, Dina et Isabelle. Cette part de mystère fait de Cinq filles perdues à tout jamais un livre facile à lire et à apprécier, même si l'on aurait aimé qu'il soit un peu plus complexe et nuancé. C'était Cinq filles perdues à tout jamais. Commentaire de lecture d'Émilie Morin paru le 14 février 2023 dans le magazine littéraire Nuit Blanche.
Depuis quand tout le monde est toxique? Un texte de Malia Kunku, paru le 24 avril 2023 dans Urbania. En 2003, et sans le savoir, Toxic de Britney Spears ouvrait le bal. 20 ans plus tard, le mot est à présent sur toutes les lèvres. Tel l'enfant prodigue du web, il a été accueilli à bras ouverts par Internet qui a fait de lui sa ponctuation, mais aussi la pierre d'angle de son vocabulaire. Désormais, toxique ne s'appose plus seulement à l'endos des bouteilles d'ammoniac. Le terme vaut aussi pour Carl qui vous a ghosté juste après votre deuxième date, pour votre coloc qui a une fois de plus invité du monde sans vous consulter ou pour votre meilleur ami qui dit avoir accidentellement oublié votre anniversaire tout en ayant vu chacune de vos stories. Ici, le mantra est simple. S'il monte en vous le moindre sentiment de malaise à un quelconque moment que ce soit, la relation que vous entretenez est assurément toxique et se doit d'être immédiatement coupée à la racine. Clac. Un tri radical, mais au nom du bien-être, car en bout de ligne, vous attend une vie purgée de toute négativité et méchamment heureuse, donc. Naturellement, ce mode de pensée dichotomique inquiète. Tout d'abord, la plupart des préceptes néo-psychologiques enseignés dans ces contenus n'ont pas ou très peu de fondements psychologiques, ce qui peut rendre leur application dangereuse. De plus, tout ici est soit tout noir, soit tout blanc, ce qui ne laisse aucune place à la nuance ou à l'introspection. Car il se pourrait que pour une fois, l'enfer ne soit pas seulement les autres. L'art de la déviation. La première erreur a été de déraciner « toxique » de son sens initial, tel que l'explique Sarah Hamel, psychoéducatrice. Résultat, à présent trivialisé, le mot perd toute sa gravité. Une personne toxique est une personne réellement manipulatrice, narcissique, qui veut du mal. Quand on parle d'une personne toxique, on va parler d'une situation de violence psychologique, sexuelle, financière et de toute autre forme possible de violence dans un contexte conjugal ou relationnel. C'est ça, la toxicité, rétablit-elle. Or, dans l'usage populaire actuel, le mot se rattache souvent à des réalités plus légères et anecdotiques qui seraient plutôt de l'ordre du désagrément ou de la contrariété. Un collègue de bureau avec qui le courant passerait moins ou un voisin qui collerait des mots passifs agressifs dans le hall d'entrée, par exemple. Sur Twitter, c'en est même devenu un trend semi-humoristique, les internautes admettant tour à tour diverses attitudes jugées toxiques. Ne jamais se confier à qui que ce soit, garder trop longtemps rancune ou encore expliquer à chaque 5 à 7 que plus de chevaux sont morts pendant la Seconde Guerre mondiale que de soldats américains. Bien loin, donc, de la notion de danger palpable et imminent dont la première définition était porteuse. Les relations interpersonnelles restent le contexte d'emploi le plus répandu du mot « toxique ». Dès le premier accro, on le prononcera dans un réflexe hâtif, trop hâtif, même selon Sarah Hamel. En relation, on peut tous avoir des insécurités, de la difficulté à communiquer ses besoins, mais tant que ce n'est pas de la violence, j'appelle ça de la maladresse et non de la toxicité, précise-t-elle. Cette différenciation est aussi faite par Roxane Larocque, psychologue pour enfants suivie sur TikTok. Pour elle, lorsqu'il est question du domaine relationnel, peu de choses sont très tranchées. Il faut sortir du schéma « bon-méchant » pour amener des nuances. Quelquefois, il y a des escalades de colère où ni l'un ni l'autre ne peut faire ressortir le meilleur de soi-même. Mais on est capable de s'asseoir, de parler et de voir que c'était un événement et non quelque chose de récurrent, distingue-t-elle. N'est-ce pas ici tout le nœud du problème, cependant? Une rupture interpersonnelle cold turkey sans s'expliquer ni demander son reste. Telle est la base même du self-care que prônent les réseaux sociaux. Ceux qui le pratiquent retirent même une certaine fierté du fait d'être parvenus à se distancer en silence d'un proche qu'ils considéraient néfaste. Mais pour Roxane Larocque, plutôt que de fierté, il est surtout question ici de fuite. Il y a un peu d'évitement en dessous de ça. On ne veut pas se remettre en question, sentir une émotion conflictuelle, alors on va se sauver de la situation et faire porter tout le blâme à l'autre personne. C'est souvent plus nuancé que ça. Et en étiquetant rapidement quelque chose comme « toxique », on perd de cette nuance, mais aussi des clés pour mieux se connaître soi-même. Vous écoutez « Depuis quand tout le monde est toxique ?» un texte de Malia Kunku, paru le 24 avril 2023 dans Urbania. Émotion, mode d'emploi. Mais pourquoi est-ce si difficile de se confronter à ces émotions, d'ailleurs? Tout simplement par manque de pratique. Selon ce que nous explique Sarah Hamel, l'émotion nous traverse, elle passe et c'est fini. Mais dans notre société, en ce moment, on la résiste et on va lui chercher des coupables. Je me sens de même, c'est de la faute à quelqu'un. Mais quand on se permet de vivre une émotion, on n'en a plus peur et on l'accueille. Or, depuis l'enfance, l'acte même de ressentir est marqué au fer rouge du tabou. On élève nos enfants à refouler nos émotions, à les enfouir pour ne pas déranger. On ne les aide pas à être à l'écoute du message qu'elles essaient de nous transmettre, donc ils s'en déconnectent. Et en grandissant, ça fait des adultes qui, dès qu'ils sont envahis d'une émotion, n'ont pas le réflexe de l'écouter, mais plutôt de la fuir, détaille-t-elle. Toxique devient alors le raccourci salutaire pour ne pas creuser la source du malaise et passer rapidement à autre chose. Mais comme le souligne Roxane Larocque, à trop vouloir se sauver, on finit par tourner en rond et retomber dans ses propres travers. Quand on ne prend pas soin de cet inconfort, ce qui arrive, c'est qu'on se remet dans des patterns relationnels qui sont souvent similaires et on se retrouve à revivre un peu les mêmes choses, mais avec d'autres personnes dans d'autres situations. Ce qui n'est pas réglé se rejoue dans nos relations car nos actions parlent de nos blessures, explique-t-elle. Et si dans différentes relations et situations, l'exacte même impasse survient à chaque fois, c'est qu'il y a sûrement ici un dénominateur commun. Right? D'où l'importance de l'auto-examen, une étape souvent absente de ces contenus de self-care virtuels. Mais auraient-ils même eu le même succès qu'ils ont actuellement si la responsabilisation faisait partie de l'équation? Peu de chance. C'est sûr que, pour les personnes qui ont été mal accompagnées au niveau des émotions et qui sont dans des patterns d'évitement de la souffrance, tomber d'un coup sur une personne qui leur dit sur les réseaux sociaux « Hey, sais-tu quoi? Je te comprends. C'est la faute des autres. » Ça fait du bien. Ça les garde dans leur zone de confort. Démêler le vrai du faux. Pour Sarah Hamel, caresser qui que ce soit dans le sens des biais de confirmation en suggérant un monde où tout est toxique sauf soi-même est loin d'être une aide. Hélas, ce mode de réflexion est souvent présenté par des personnes drapant leur manque de connaissances en psychologie d'une fausse aura de crédibilité, ce qui facilite l'endoctrinement. Ce sont souvent des motivateurs, des influenceurs, des coachs de vie en développement personnel qui n'ont pas de formation et qui perpétuent ce genre de discours. Un psychologue, un psychoéducateur ou tout autre professionnel qui a fait des études supérieures ne va pas entretenir ce discours-là. Mettez-le en garde. Parmi les stéréotypes inexacts propagés, celui d'une vie de félicité absolue et ininterrompue à laquelle aspirer, une fois la moindre trace de toxicité éradiquée. C'est super problématique de viser le bonheur dans la vie, estime la psychoéducatrice. Je le dis aux parents. Votre job, ce n'est pas de rendre vos enfants heureux, mais de les accompagner à travers toute la gamme d'émotions qu'ils vont vivre, y compris celles désagréables. C'est ça qui va faire un futur humain adaptatif, résilient, qui ne va pas faire naufrage à la première tempête émotionnelle traversée. Pour rétablir l'équilibre, toute une éducation affective serait donc à refaire, une mission que se donnent de plus en plus de spécialistes de la santé sur les réseaux sociaux, à l'instar de Roxane Larocque et Sarah Hamel. Je ne m'attends pas à ce que ça change tout de suite. Je pense que la génération actuelle va être coincée avec ça pour un bout de temps encore. mais là où résident nos espoirs, c'est dans la manière dont vont être élevées les prochaines générations. Peut-être qu'elles arriveront à briser la peur intergénérationnelle des émotions, souhaite Sarah Hamel. C'était « Depuis quand tout le monde est toxique ?» un texte de Malia Kunku, paru le 24 avril 2023 dans Urbania.
La situation des droits humains des personnes LGBTI dans le monde en 2023. Un texte de Logan Cartier, paru le 12 mai 2023 dans le magazine Fugue. Au cours des 30 dernières années, 49 États membres des Nations Unies ont dépénalisé les actes consensuels entre personnes de même sexe, selon les données publiées à la fin mars 2023 par ILGA World. Toutefois, les lois réprimant ces actes restent une réalité pour un tiers des pays dans le monde. Ces données, et bien d'autres, sont disponibles dans la base de données de ILGA World, une plateforme lancée aujourd'hui par ILGA World et qui compile les lois, les nouvelles et les références aux organes de défense des droits humains et aux possibilités de plaidoyer auprès des Nations Unies pour les personnes LGBTI dans le monde entier. Dorénavant, grâce à cette plateforme gratuite, interactive et collaborative, tout le monde peut suivre les progrès actuels et les revers concernant les questions d'orientation sexuelle, d'identité et d'expression de genre et de caractéristiques sexuelles dans 193 États membres des Nations Unies et 47 territoires non indépendants. Des avancées durement acquises ont lieu dans de nombreux États membres des Nations Unies. 7 d'entre eux ont introduit des restrictions nationales aux interventions inutiles sur les mineurs intersexes. 20 autorisent la reconnaissance légale du genre basée sur l'autodétermination. 11 d'entre eux interdisent les thérapies de conversion sur le plan national. Le mariage égalitaire est désormais une réalité dans 33 États membres des Nations Unies. Les lois qui protègent les personnes contre les crimes de haine en raison de leur orientation sexuelle existent dans 58 États membres des Nations Unies, mais seulement 37 le font sur la base de l'identité de genre, 9 sur la base de l'expression de genre et 5 sur la base des caractéristiques sexuelles. Il a toujours été difficile d'obtenir des données sur les populations LGBTI, historiquement exclues, non comptabilisées et non représentées, explique Lucas Ramon Mendoz, coordonnateur à la recherche à l'ILGA World. S'appuyant sur les 4 décennies d'expérience de notre organisation dans la compilation de ce type d'informations, ILGA World les partage désormais avec tout le monde en donnant un accès gratuit à une plateforme fondée sur des données et des recherches et qui systématise 4300 sources juridiques et plus de 7000 références provenant des mécanismes des Nations Unies. La base de données de ILGA World présente des informations mises à jour sur les lois, y compris les décisions judiciaires, les ordres exécutifs et les projets de loi en cours d'élaboration, qui affectent les personnes LGBTI dans le monde entier, réparties en 18 catégories juridiques et plus de 100 sujets, et visualisées sur des cartes interactives mondiales et régionales. Chaque État et juridiction dans le monde à son propre profil avec les lois, les occasions de plaidoyer à venir pour les défenseurs des droits humains et une sélection des dernières actualités LGBTI. Les militants peuvent suivre les développements dans chaque organe des droits humains au sein des Nations unies, surveiller les délais pour s'engager auprès d'eux et intégrer toute entrée dans leur travail de recherche ou d'élaboration de politique. Les organisations de base ne peuvent souvent compter que sur peu de ressources pour se tenir au courant des développements mondiaux ou pour trouver des informations qu'elles peuvent utiliser dans leur travail de plaidoyer ou de campagne, commente Julia Hurt, directrice exécutive d'ILGA World. La base de données de ILGA World met entre leurs mains une puissante source d'informations. Un simple coup d'œil aux données suffit pour constater que la véritable égalité est encore très loin d'être atteinte pour de nombreuses personnes LGBTI dans le monde. 6 États membres des Nations unies imposent légalement la peine de mort pour les actes sexuels consensuels entre personnes de même sexe et il n'y a aucune certitude juridique quant à son application dans 5 autres États. Au moins 51 pays imposent des restrictions à la liberté d'expression sur les questions de diversité sexuelle et de genre, y compris dans les milieux éducatifs. En termes simples, ces données parlent et fournissent à tous ceux qui y accèdent les éléments de preuve manquants sur la façon dont les personnes lesbiennes, gays, bisexuelles, trans et intersexes sont encore laissées pour compte dans de nombreux domaines de la vie, commente Luz Elena Aranda et Twizina Imania Brown, co-secrétaires générales de ILGA World. Grâce à la base de données de ILGA World, nos réalités vécues peuvent être documentées. Des programmes et des services peuvent être plaidés. La base de données met en lumière des données précieuses qui manquent dans le plaidoyer actuel en faveur des personnes LGBTI. En les associant à nos histoires et à notre activisme, nous ferons du monde un endroit meilleur et plus égalitaire pour nos communautés LGBTI globalement. Vous écoutez La situation des droits humains des personnes LGBTI dans le monde en 2023, un texte de Logan Cartier paru le 12 mai 2023 dans le magazine Fugue. Chiffres clés provenant de la base de données de ILGA World, données extraites à la fin mars 2023. Criminalisation. 64 États membres des Nations unies criminalisent les relations consensuelles entre personnes de même sexe. 62 d'entre eux criminalisent de jure, loi criminalisant les actes sexuels consensuels entre personnes de même sexe. 2 criminalisent de facto dans la pratique en s'appuyant sur d'autres lois. La peine de mort est la peine légalement prescrite pour les actes sexuels consensuels entre personnes de même sexe dans 6 États membres des Nations unies. Brunei, Mauritanie, Iran, Nigeria, 12 provinces, Arabie saoudite et Yémen. Dans 5 autres États, Afghanistan, Pakistan, Qatar, Somalie et Émirats arabes unis, il n'existe pas de certitude juridique totale. Liberté d'expression et liberté d'association. Au moins 51 États membres des Nations unies disposent de lois, de règles et de réglementations qui interdisent les formes d'expression liées aux questions de diversité sexuelle et de genre. Dans au moins 11 d'entre eux, les lois sont spécifiquement conçues pour s'appliquer à l'éducation, et dans 25 d'entre eux, elle réglemente spécifiquement les contenus diffusés par les médias. Au moins 55 États membres des Nations unies présentent des obstacles juridiques à l'enregistrement et au fonctionnement d'organisations défendant ouvertement les droits des personnes LGBTI. Protection constitutionnelle contre la discrimination. États membres de l'ONU dont la Constitution prévoit une protection contre la discrimination. Basée sur l'orientation sexuelle, 12. Basée sur l'identité de genre, 5. Basée sur l'expression de genre, 1. Basée sur les caractéristiques sexuelles, 0. Thérapie de conversion. 11 États membres des Nations unies interdisent les thérapies de conversion à l'échelle nationale. En outre, 7 ont des réglementations indirectes et 6 ont des interdictions sous-nationales uniquement. Mariage et adoption. Le mariage égalitaire est une réalité dans 33 États membres de l'ONU et à Taïwan. Les couples de même sexe peuvent adopter un enfant ensemble dans 33 États membres de l'ONU. Une personne faisant partie d'un couple de même sexe peut adopter l'enfant de son partenaire dans 35 États membres de l'ONU. Intersexe. 7 États membres de l'ONU interdisent les interventions médicales non vitales sur les enfants intersexes. Reconnaissance légale du genre. 20 États membres de l'ONU autorisent la reconnaissance légale du genre sur la base de l'autodétermination à l'échelle nationale. Dans les 4 autres, elle n'est une réalité que dans certains États ou provinces. Les marqueurs de genre non binaires dans les documents d'identité sont disponibles dans 20 États membres de l'ONU au maximum. Info ILGA World, ilga.org. C'était La situation des droits humains des personnes LGBTI dans le monde en 2023, un texte de Logan Cartier paru le 12 mai 2023 dans le magazine Fugue.
Vous pouvez retrouver cette émission sur le site de Canal M à l'adresse canalm.usevoix.com. Cette émission est rendue possible grâce à Gilbert Lepage à la lecture, André Lebeau à la recherche, Nicolas Wartman à la présentation et au montage.